énergie renouvelable,
des applications,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. C'est ça la phrase, les gars. Cette semaine, à Delirium Environnemental, pour vous divertir, mais surtout pour vous informer, on vous a concocté une émission spéciale pour souligner l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, et ça, c'est le 16 février 2005. Une date à retenir, c'est un changement d'air paradigmatique, on vous en parlera plus amplement tout au cours de l'émission. Alors, chers auditeurs et auditrices, on a préparé pour vous, comme je vous le disais, une émission spéciale, parce qu'on est allé participer à l'événement de lancement qui se tenait à la Biosphère de Montréal, mardi le 15 février 2005. Donc, on a recueilli une foule de commentaires pour vous. En fait, c'est les deux Nicolas, Nicolas Mainville et Nicolas Milo, qui ont recueilli une foule de commentaires pour nous. Ils vont pouvoir les partager tout au long de cette émission. Et bien sûr, Delirium Environnemental, ça se termine toujours par des coups de cœur, coups de masse et au calendrier de la semaine. Donc, c'est ce qu'on va faire encore cette semaine. Cette semaine en studio, le retour de la fille de Delirium Environnemental. Yeah. Et j'ai nommé moi-même Sofiane Legendre. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens aujourd'hui. Émission importante, en fait, pas... Oui, l'émission est importante comme toujours. La semaine est importante, le jour est important, l'air pré-Kyoto est sur le point de se terminer. Donc, un grand pas pour l'humain, mais un tout petit pas pour la planète. Je suis déjà tout émue. Nicolas Mainville, Nicolas Milo, j'espère que vous allez bien.
Ça va bien, certainement.
Ça va très bien, belle journée.
Absolument, très belle journée d'un beau gris de brun bien urbain, quoi.
Bien magnifique. Chaud pour février, en plus.
En plus, on a presque ressorti nos manteaux de printemps, le presque étant oui, on les a ressortis. Donc, quelques raisons de se réjouir, oui, certainement, mais de douter aussi. Messieurs, le protocole de Kyoto qui rentre en activité, qui rentre en vigueur demain, donc ça vous inspire quelque chose, mais quoi?
Ben oui, en fait, pour ceux qui nous écoutent le mercredi 16 février, eh bien, il est maintenant en vigueur, ce fameux protocole de Kyoto. Comme vous le savez, on est en pré-enregistrement, donc on n'a pas eu la chance de voir les déclarations officielles de tous nos bons dirigeants de cette planète, qui d'ailleurs devrait abonder en ce 16 février. Je pense que les pays se sont mobilisés pour faire des commentaires dans les médias, pour prendre position sur ce fameux protocole de Kyoto. Donc, écoutez, ici à Delirium Environnemental, on est fou comme des balais, puisque ça fait combien de temps là, qu'on parle de changement climatique? On parle d'au moins 3 ans là, de,
on parle de, nous ici,
de
suivi environnemental.
Des médias, de ce qui se passe en tant que changement climatique et protocole de Kyoto. Eh bien maintenant, on va arrêter de parler au passé, on va passer au futur en mode de vitesse 2, c'est-à-dire passons à l'action.
Enfin!
Ben oui, l'arrivée... tant attendu de l'efficience de Kyoto, du fait qu'il prenne vraiment toute sa vigueur et toute sa force, ou du moins qu'on lui en donne la possibilité, ça laisse envisager les plus beaux rêves. En même temps, on espère ne pas voir de fâcheuses histoires se répéter le 15 février, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous, hier pour vous, notre beau gouvernement provincial qui nous propose un projet d'autoroute. On est dans l'ère Kyoto ou on ne l'est pas. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui sont à venir, mais chose certaine, c'est une étape marquante dans, je pense, l'histoire. On saura peut-être plus le préciser dans les livres d'histoire dans le futur, mais où on risque de faire face à un tournant vraiment important sur l'attitude qu'ont les sociétés humaines face à leur propre développement, face à l'utilisation de l'énergie. Bref, c'est un moment qui est fichuement important.
Fichement important, moi je le disais tout à l'heure, je disais un grand pas pour l'humain et un tout petit pas pour la planète, parce que c'est vrai que d'un point de vue social et politique, c'est un protocole, c'est un accord qui est extrêmement intéressant, c'est le premier d'une longue série d'accords qui nous oblige à prendre conscience concrètement dans nos politiques au niveau national, qu'on vit tous ensemble sur une petite planète toute fragile. C'est aussi important parce que c'est un protocole, un accord qui repose sur des données scientifiques, c'est vraiment une espèce d'amalgame entre des idéaux politiques vers où on veut aller, vers quel type de développement on veut se diriger, mais aussi sur comment fait-on pour faire de la politique à partir de données scientifiques. Et dans ce sens-là, c'est très intéressant, mais c'est aussi dans ce sens-là que c'est un tout petit pas, parce que peut-être simplement rappeler, les gens doivent se faire casser les oreilles depuis toute la semaine avec ça, mais on se souvient que les objectifs du protocole de Kyoto en ce qui a trait au Canada, c'est de réduire de 6% en dessous des limites, pas des limites, mais du nombre d'émissions qu'il y avait en 1990, c'est pas beaucoup. Et puis entre 1990 et 2004, il y a eu une augmentation faramineuse là, des émissions de gaz à effet de serre. Donc en termes concrets, biogéophysiques, c'est pas beaucoup. C'est rien d'exceptionnel en fait.
C'est très peu, mais évidemment, c'est toute la game politique qui se joue en arrière de ça. Évidemment, à l'émission aujourd'hui, on va essayer de brosser un portrait général de ce qu'implique Kyoto, les différents acteurs. Puis on a eu la chance, en fait, on a la chance ici au Québec d'avoir des groupes très actifs dans le monde de l'environnement. Puis il y a eu l'organisation en ce mardi du colloque sur les changements climatiques organisé par le Centre québécois d'action sur les changements climatiques. En fait, ce centre québécois-là, qui est tout récent, où on avait annoncé sa naissance à la fin 2004. Et puis, ces six groupes qui sont, on peut les nommer, Environnement Jeunesse, Greenpeace, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, Vivre en ville, le Centre de l'environnement de la Ville de Québec et qui est-ce que j'oublie?
Le gouvernement du Canada.
Équiterre, évidemment. Ces groupes qui se sont mis ensemble pour faire avancer la question des changements climatiques. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'aller assister aux conférences qui étaient présentées dans le cadre de ce colloque-là. Donc, tout le long de l'émission, on va parsemer nos interventions spécialistes de différents sujets par rapport à ça.
Bien, comme le temps file, on va commencer tout de suite avec M. Sidney Guilbeault, à qui t'as posé... Sidney Ribeault, donc d'Équiterre, à qui t'as demandé de présenter l'événement.
Exactement, il nous fait un résumé, en fait, des objectifs de ce colloque qui s'est tenu à la biosphère.
Alors aujourd'hui, on organise un colloque sur le changement climatique à la veille de l'entrée en vigueur de l'accord de Kyoto. Dans le fond, c'est pour marquer le coup de l'entrée en vigueur de Kyoto qu'on organise cet événement-là. C'est un événement qui a été organisé par le Centre d'action sur le changement climatique, qui est lui-même un regroupement de 6 organismes environnementaux, dont Équiterre, Greenpeace, Vivre en ville, Environnement Jeunesse et le Centre de l'environnement. Et donc aujourd'hui, on fait un focus sur les changements climatiques, mais plus particulièrement sur la question des transports, parce qu'au Québec, 38% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports. Et c'est pour cette raison-là qu'on voulait marquer le coup et souligner, à la fois pour la population, mais aussi pour les gouvernements, qu'il faudra se doter d'un plan d'action important pour réduire les émissions dans le secteur des transports.
Écoutez encore Délirium environnemental. Je vous rappelle que Délirium environnemental, c'est un magazine radio d'information en environnement. C'est aussi un site Internet ainsi qu'une cyberlette à laquelle vous pouvez vous inscrire en allant au www.radiodelirium.net. Donc, on a participé pour vous au colloque sur les changements climatiques qui était l'événement pré-Kyoto. Et donc, tout ça se passait à la biosphère. On vient d'entendre M. Sidney Ribeault d'Équiterre qui nous présentait un peu l'événement. Moi, je vous invite à aller visiter la biosphère. C'est un musée de l'eau. Moi, je l'ai appris au même moment. Ça coûte environ le même prix que d'aller au cinéma et c'est beaucoup plus exotique. Donc, je vous recommande d'aller voir cette belle structure qui a été construite pendant l'Expo 67. Pour l'Expo 67, devrais-je dire. Si on s'est doté d'un protocole, d'un accord qui s'appelle le protocole de Kyoto, c'est parce qu'on devait faire face à une situation environnementale qui nous semble de plus en plus troublante et j'ai nommé celle des changements climatiques. Pour ceux peut-être qui veulent se remettre dans le bain, qui veulent se mettre des images en tête, vous pouvez aller vous louer l'excellente comédie, j'allais dire, mais le film américain The Day After Tomorrow. On pourrait presque en faire une seconde version après Kyoto, qui sait. Donc c'est parce qu'il y a cette problématique-là, celle des changements climatiques. Les perturbations du climat, on les a observées particulièrement beaucoup ces dernières années à cause de phénomènes extrêmes, mais ça fait des années qu'on s'intéresse à ces questions-là. Donc en termes de perturbations climatiques. Nicolas Mainville, tu nous fais un petit topo.
Ben oui, en fait, un espèce de wrap-up, si vous me permettez l'expression, pour savoir ce qui a motivé justement tous ces chercheurs, ces milliers de chercheurs qui s'intéressent à la question du climat. Vous savez que ça fait longtemps, en fait, qu'on se questionne sur les perturbations climatiques. Et puis, la théorie des changements climatiques et de l'effet de serre date déjà de plusieurs années. Mais évidemment, ce qui s'est produit sur cette planète durant les dernières années, vraiment les 10 dernières années, je pense, qu'ont été très marquantes, ce qui a en fait provoqué les négociations pour Kyoto, c'est évidemment les événements de plus en plus extrêmes, que l'on pense aux sécheresses, aux grandes sécheresses, jusqu'à l'augmentation de la fréquence des cyclones ou des ouragans, ou celle des tornades, même qu'on a battu des records encore une fois cette année aux États-Unis avec le nombre de tornades, qu'on pense à la fonte des glaciers continentaux ou même des glaciers océaniques, donc qui flottent sur les mers. On a remarqué une diminution drastique de la superficie de glaciers sur cette planète-ci, celle que nous habitons, je vous le rappelle.
Et nous n'en connaissons pas d'autres à ce jour, donc.
Et non, malgré que M. Bush est en exploration et en investissement massif pour aller sur Mars, mais bon... puisqu'on n'est pas rendu là encore, ces constats-là font en sorte que bon, les négociations pour Kyoto étaient, selon moi, cruciales, et c'est ce qui a donné naissance à ce protocole-là. Maintenant, à savoir, qu'est-ce que ce protocole-là? Ça a été quoi l'historique en arrière de tout ça?
Peut-être simplement pour conclure sur le sujet de ce que tu viens de parler, donc des perturbations climatiques, vraiment, j'invite tout le monde à soit venir sur notre site Internet à nous, ou aller sur le site Internet du Devoir, qui est un journal magnifique. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ça. Louis-Gilles Francœur fait une série de deux articles, grosse série, mais de deux articles. L'effet de serre est un concept né en 1780. Mm-hmm. C'était en première page du Devoir du mardi 15 février 2005. Un excellent article, très volumineux, un gros article avec plusieurs informations, et donc le concept daterait de 1780. C'est long, faire bouger les choses. Hein? Donc, une fois qu'on s'y est mis, par exemple, ça s'est mis à bouger tranquillement. Ça prend 7 ans pour changer le monde, semble-t-il, parce que c'est en 1992 que la première convention cadre sur les changements climatiques s'est tenue aux Nations Unies. Donc, Nicolas Milo, tu nous expliques un peu quel est l'historique de ce protocole qui, d'après toi, va marquer les livres d'histoire.
Ben, on espère, du moins. En 92, donc première rencontre où est-ce que la communauté internationale s'entend pour prendre des mesures concrètes face au développement du climat, mais tout ça va mener en 1997 au fameux protocole de Kyoto. Mm-hmm. Je vous mets un peu les idées en place, parce que c'est quelque chose de très complexe. Souvent, on se perd dans qui a signé, qui a ratifié, quelle est la différence entre les deux. Mm-hmm. Ça implique des caractéristiques tout à fait différentes. En 1997, des pays se sont assis ensemble, beaucoup de pays se sont assis et ont fixé des objectifs en termes de réduction des effets de l'homme sur le climat. On a ciblé les gaz à effet de serre comme étant la principale source d'effets anthropiques, d'effets humains sur le climat, et on a inscrit dans un protocole des objectifs de réduction de ces gaz à effet de serre-là. Ce protocole-là fixait pour 39 entités, donc c'est 37 pays, mais plus l'Union européenne et une autre union représentant plusieurs pays. Mais donc, pour 37 pays développés, on a fixé des objectifs de réduction. Pour le Canada, on en a parlé plus tôt, c'est 6% de moins que le niveau d'émissions qu'il y avait en 1990. Pour les États-Unis, c'était 8% de moins, car les États-Unis étaient des pays qui ont élaboré le protocole de Kyoto et qui ont signé le protocole de Kyoto.
On se rappelle, c'est Bill Clinton qui avait...
C'est Bill Clinton. George Bush ne devait pas être content, certainement. Mais donc, des pays se sont installés, ont fixé des objectifs, et après la signature de ce protocole-là, on rentre dans le processus de ratification. Ratifier un protocole, ça veut dire que chacun, on est retourné chez soi, on a présenté le projet à nos chambres des représentants, peu importe, selon les pays, et on a décidé dans une décision nationale, c'est-à-dire à Ottawa, à Washington, à Paris, peu importe, d'appuyer le protocole et d'y participer. Donc, cette ratification-là, pour que le protocole entre en vigueur, devait regrouper au moins 55 pays qui représentent 55% des émissions de gaz à effet de serre de 1990. Le nombre de pays n'a pas été difficile. Aujourd'hui, c'est 141 pays qui ont signé, ratifié, qui appuient, bref, qui rentrent dans l'élan Kyoto. Par contre, c'est à peine 61% des gaz à effet de serre qui sont représentés par ces 141 pays-là. Pourquoi? Parce que les États-Unis, depuis, entre autres, l'arrivée de George Bush au pouvoir, il n'est pas question qu'on rentre dans l'ère Kyoto. L'Australie également a décidé de ne pas ratifier. On peut penser aussi à d'autres pays importants comme la Croatie et le Kazakhstan qui, eux, ont décidé de leur côté de ne pas ratifier ce protocole-là.
Tu disais 141 pays ont signé, ils n'ont pas ratifié.
Ils ont ratifié.
Par la suite. Donc, ont ratifié. Ce qui arrive, c'est que, peu importe les pays qui ont signé, les objectifs ne concernent que les 37 pays industrialisés. Donc, par exemple, le Honduras, en Amérique centrale, n'est pas un des pays développés de la planète ou dit développés de cette planète. Donc, pour lui, les objectifs ne le touchent pas. On verra plus tard dans l'émission, par exemple, que ratifier pour un pays qu'on dit en voie de développement est quand même intéressant parce que ça lui permet de rentrer dans les mécanismes qui découlent du protocole, mais ça, on va avoir la chance d'en parler beaucoup plus tard. Mais donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une force quand même importante de 141 pays qui exclut malheureusement les États-Unis d'Amérique, et non pas l'Amérique en entier, inutile de le rappeler. Et donc, ces pays-là ont comme objectif, en 2008 et 2012, de réduire globalement de 5,2% sous 90 leur gaz à effet de serre.
5,2%.
Donc, c'est pour 37 pays, on se rappelle. Et donc, c'est plusieurs vont qualifier le protocole de Kyoto d'un pas très frileux en matière d'action en termes de changement climatique. Mais en même temps, il faut se rappeler que agir en fonction de Kyoto, c'est renverser la vapeur sur ce qui se fait présentement. Et souvent, on le dit, hein, le difficile, c'est pas d'aller plus loin, c'est de virer de bord. Puis c'est peut-être là qu'on est présentement, là, en ce 16 février 2005.
On est dans un espèce de début de U-turn.
Ah ouais, donne du gaz, papa. Et vous écoutez encore Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous le dis encore parce que c'est important. Vous pouvez aller chercher toutes les informations desquelles on vous parle sur notre site internet qui est au www.radiodelirium.net. Donc, une émission spéciale en ce mercredi 16 février. 15 pour ceux qui nous écoutent le 15. Donc, une émission spéciale parce que si vous n'avez pas encore ouvert aucun poste de télévision, ouvert aucun journal, vous ne savez peut-être pas, mais aujourd'hui entre en vigueur le protocole de Kyoto, qui est, comme Nicolas Milo et Nicolas Mainville nous l'expliquaient tout à l'heure, un protocole qui, malgré qu'il soit très encourageant, est à la fois très frileux. Il n'y a rien qui est parfait dans la vie. On va entamer un petit bloc où est-ce qu'on va parler des objectifs. Donc, on a parlé tout à l'heure d'une réduction tout à fait petite de 5,2% en dessous des taux de 1990 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va parler des objectifs de Kyoto. Comment faire pour les atteindre? Il y a plusieurs catégories d'acteurs qui sont concernés parce que bien que ce soit des pays qui s'engagent, mais ils s'engagent au nom de leurs citoyens et citoyennes ainsi que leur industrie. Donc, des grands défis peut-être, messieurs, l'un des deux qui veut se lancer sur cette question-là, les objectifs à atteindre. On va aller directement écouter donc Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault qui a travaillé très fort pour qu'ici, au Québec, on ait des discussions intéressantes sur ces questions-là. Nicolas Milo, quelle est la question que tu as posée à...
Ben, simplement, aujourd'hui, on est le 16 et je demandais, face à l'arrivée de Kyoto comme force active, qu'est-ce qui attend le Canada?
Ce qu'attend le Canada demain, avec l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, c'est que là, Kyoto arrête d'être une entente internationale théorique qui va peut-être arriver un jour et devient très pratico-pratique, devient une entente légalement contraignante pour le Canada. On doit atteindre nos objectifs. Alors, la question ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Mais il n'y a pas 36 façons. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup utilisé la stratégie de la carotte au Canada, donc on donne des incitatifs, on demande sur une base volontaire aux industries de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, on demande à la population de relever le défi d'une tonne, mais ce que le gouvernement fédéral, lui, doit faire, c'est relever le défi 240 millions de tonnes, c'est-à-dire qu'il faut atteindre nos objectifs, et pour ça, le gouvernement va devoir sortir le bâton. On devra, dans certains cas, mettre des mesures contraignantes pour certaines entreprises. Il faudra forcer les compagnies d'automobiles à mettre sur le marché des véhicules plus efficaces. Il faudra investir dans le transport en commun et cesser les investissements dans les combustibles fossiles. Alors, c'est en deux mots le plan d'action que le Canada devrait mettre en place si on veut atteindre nos objectifs de Kyoto.
Et donc, on vient d'entendre M. Stephen Guilbeault. Vous allez l'entendre beaucoup ces jours-ci. Vous l'avez beaucoup entendu. Donc, il est responsable en matière de la campagne changement climatique chez Greenpeace et porte-parole pour Greenpeace Canada, Stephen Guilbeault.
Alors, c'est pas compliqué.
Hop
là.
Il voulait parler encore.
On sait, entre autres, que donc on va tous se doter de moyens pour agir sur le climat positivement, idéalement. Le gouvernement Martin se prononçait récemment sur les actions qu'il comptait prendre concernant l'industrie automobile, des actions très décevantes aux yeux de plusieurs.
Bien, c'est décevant. En fait, on accumule les déceptions point de vue position du Canada sur le plan Kyoto du gouvernement fédéral. Et puis, M. Martin lui-même, vous savez, notre cher premier ministre, déclarait lundi 14 février qu'il était tenté, en fait, qu'il serait prêt à accepter des mesures volontaires des constructeurs automobiles pour réduire la consommation de carburant, plutôt que de leur imposer des règles contraignantes. Vous savez que ça fait longtemps qu'on espère que le gouvernement canadien prenne position par rapport à ça. On a même M. Dion et M. Lapierre, messieurs Dion et Lapierre, qui sont allés en Californie pour voir ces fameux plans audacieux de la Californie. Bon, ça a l'air que ces négociations-là n'ont pas donné grand-chose, puisque Martin semble y aller pour la direction des mesures volontaires. Par rapport à ce dossier, on a eu la chance de jaser un petit peu avec M. Richard Bergeron, qui est analyste stratégique à l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, et qui est aussi chef du Parti politique Projet Montréal, ici bien à Montréal, et qui nous dit justement sa position par rapport à ces mesures volontaires proposées par M. Martin. On l'écoute tout de suite.
Alors, c'est pas compliqué. Paul Martin me dit qu'il n'aura que des mesures volontaires pour l'industrie auto. 10 jours après qu'elle-même ait dit que, de toute manière, elle voulait rien faire. Puis que Kyoto, elle s'en foutait complètement. Que si le gouvernement canadien avait des objectifs relatifs à Kyoto, c'était son problème et pas le sien. Alors, 10 jours après que l'industrie avait fait ce coup de force, le premier ministre répond en disant « Ah, de eux, je vais exiger qu'il y ait des mesures volontaires. Il m'a envoyé promener et j'accepte d'aller me promener. » Mais d'un autre côté, le premier ministre du Canada est quand même assez conscient de son pouvoir relatif par rapport à l'industrie automobile. La seule personne au monde qui peut faire fléchir, en tant soit peu, l'industrie automobile et des pétroles américaines, c'est le président américain. Alors, Nixon l'a fait au début des années 70, après le premier choc pétrolier. Reagan l'a refait dans une autre direction en 82. Et ainsi de suite. C'est des présidents américains qui n'ont pas, suivant qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, une emprise sur les grands de l'auto et du pétrole américain. Le premier ministre canadien sait très bien qu'il est un petit scout en culotte courte dans ce jeu-là. Alors il nous dit, 10 jours après que l'autre a dit, de toute façon, je te donne rien, ne me demande rien, tu n'auras rien, il nous dit qu'il ne leur demandera rien, il a très bien compris quelle est sa place.
Un petit scout en culotte courte, Monsieur Richard Bergeron de Projet Montréal n'a pas sa langue dans la poche. Dans sa poche, en tout cas, je sais pas si c'est dans celle de quelqu'un d'autre. Excusez-moi.
Oh.
On sait qu'on parle beaucoup de transport, entre autres, parce que l'industrie automobile, en fait, le transport urbain, pas seulement urbain, mais le transport en voiture individuelle et le transport en général est responsable au Canada de 38% de 38% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites. On en parle beaucoup. Il y a des données qui sont intéressantes. Donc, enfin, peut-être que les gens ont commencé à en comprendre. En 2004, il y a moins de voitures neuves qui se sont achetées.
Oui, il y a moins de voitures neuves pour la première fois depuis, je pense, 10 ans. La courbe diminue cette année.
Pas depuis 10 ans, depuis 1999.
Ah, mon Dieu! Le temps passe tellement vite.
Ah, c'est fou.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler pourquoi c'est aussi important le secteur de l'automobile. Plusieurs intervenants au colloque ce 15 février nous rappelaient que on prend tout le temps en compte la quantité de gaz à effet de serre qui seront émis pendant l'utilisation de l'automobile. Mais le tiers des gaz à effet de serre qui seront émis dans la vie complète de l'automobile le sont dans sa fabrication.
Mm-hmm.
On avait plein de données qui nous disaient que, par exemple, je pense que c'était 15% de l'acier aux États-Unis s'en va directement à l'industrie automobile,
mm-hmm.
qu'une quantité faramineuse d'énergie est utilisée dans la fabrication de l'automobile. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de rouler en automobile, mais c'est le fait d'en acheter une neuve qui est surtout monstrueux, mais qui fait partie du monstre, qui fait partie du monstre qu'est l'industrie automobile. Mais donc pour la vente d'automobiles, oui, effectivement, on est en baisse, mais on avait plein de données aussi qui étaient un peu intéressantes. Par exemple, dans la reconfiguration de la vente automobile, mm-hmm. Eh bien le marché des jeunes n'est absolument plus à considérer. On a, comme vous savez, une courbe démographique qui s'en va, qu'on a de moins en moins de jeunes. Donc les compagnies ne font absolument plus preuve d'imagination côté vente d'automobiles aux jeunes. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que 80% des ventes automobiles par année sont attribuables aux femmes. Donc, il y a une grande sensibilisation à faire à ce niveau-là.
Là-dessus, c'est juste parce qu'on est pas mal organisé puis on n'a pas le temps de niaiser, mais bon, je m'excuse.
Il faut aller magasiner tout de suite. Pas demain, pas plus tard.
Ben oui. Intéressante donnée. Par contre, et ça soulève l'une de mes critiques par rapport à tout ça, on demande beaucoup aux citoyens, aux individus d'agir. Donc, le choix d'acheter ou pas une voiture, c'est quelque chose qui est personnel, mais c'est une décision qui se prend dans un contexte de disponibilité d'autres types de transport.
Oui, puis ce qui est tout à fait absurde aussi, c'est de comparer les attitudes prises par l'industrie automobile en Europe versus ce qui se fait en Amérique.
Mm-hmm.
On a juste à penser, par exemple, à des demandes qui ont été faites par les pays de la communauté européenne pour réduire la consommation des véhicules. En 2010 ou en 2012, si je me rappelle, en Europe, la moyenne des véhicules utilisés devront consommer 5,2 litres aux 100 km.
Mm-hmm.
Et Chrysler, qui est présent sur le marché européen, Ford Europe, GM Europe ont rentré dans la cadence de produire des autos de moins en moins énergivores. En Amérique, c'est impossible, nous dit-on, d'avoir une telle approche. La population n'acceptera jamais d'avoir un véhicule peu énergivore qui ne fait pas le 0-100 en 9,4 secondes.
Ça, c'est n'importe quoi.
Et voilà. Donc, on voit qu'il y a une différence d'approche, mais basée sur peut-être des lobbies un peu trop puissants de ce côté-ci de l'Atlantique.
Bien, ça rejoint beaucoup, en fait, la prise de position de Richard Bergeron par rapport à ça. Ce qu'il a mentionné dans sa présentation aujourd'hui, c'est justement cette espèce d'avidité, c'est ça dit, l'avidité?
Oui, absolument.
Oui, pour la puissance et la rapidité de nos véhicules. Il mentionnait que la Toyota Echo est maintenant plus puissante que la Ford Mustang des années 80. On est rendu avec des machines, des bombes de puissance qu'on peut rouler comme des malades sur les routes.
Mm-hmm.
Évidemment, une problématique qui est directement reliée à la question de la consommation d'énergie et consommation d'essence. Puisque le protocole de Kyoto rentre en vigueur aujourd'hui même, on a à se poser une question qui est bien simple. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on a un geste à poser par rapport à ces consommations d'essence, puisque vous savez que toute la question du pétrole est centrale dans la question des changements climatiques. Donc, je pense que le message apporté par Richard Bergeron et par la plupart des groupes environnementaux, c'est de dire on a notre rôle, notre position à prendre par rapport au changement climatique, et la question des transports est centrale. On a l'option d'arrêter de favoriser les super SUV. D'ailleurs, on va vous montrer des statistiques tout à l'heure sur les SUV, l'augmentation des ventes de SUV au Québec. Je pense qu'on est rendu là. On est capable de prendre cette position.
Oui, mais j'aimerais quand même amener une petite nuance sur ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, on parlait d'objectifs. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des objectifs qui vont être à l'échelle des citoyens.
Mm-hmm.
Il y a des objectifs qui vont être à l'échelle des industries et à l'échelle des gouvernements. Et c'est bien important de faire la différence là-dedans. Stephen Guilbeault, plus tôt dans l'émission, nous parlait qu'on demande à chaque citoyen de faire son défi d'une tonne, mais pour le Canada, c'est le défi de 240 millions de tonnes.
Mm-hmm.
Quand même bien que tous les Canadiens, on se met ensemble et qu'on réalise notre défi d'une tonne, il en manque 210.
Mais justement, et moi, le point que je voulais amener, c'est que 38% des émissions de gaz à effet de serre au Québec sont dues au transport, mais que 36-35% sont dues à l'industrie. Donc, oui, les citoyens, oui, le transport, mais oui, aussi l'industrie. Et nous en parlerons au retour.